Ndekiluka. Vous écoutez Radio Ndekiluka sur les 3W pour Radio Ndekiluka.org sur la chaîne 545 du Bouquet Canal Plus. Nous vous invitons, chers amis auditeurs et internautes, à suivre le journal de la mi-journée. Une présentation de Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiani, bienvenue à tous dans cette édition Les Titres. Les musulmans célèbrent aujourd'hui la fête de Aïd el-Kébir, appelée aussi Tabaski, en République centrafricaine. La célébration cette année est placée sous le signe de la repentance. Renouvellement de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine, réaction des centrafricains à suivre dans cette édition. Et puis l'autorité nationale des élections rassure sur le paiement des perdièmes des démembrements et agents recenseurs sur le terrain. Selon son rapporteur général, l'opération de paiement commence aujourd'hui à Bangui. En sport, le président de la Fédération centrafricaine de basketball sort de son silence et parle des défis du basketball. Précision dans la page sport.
Les musulmans centrafricains, les stars des autres du monde entier, célèbrent ce vendredi la fête de Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski.
Malgré les restrictions dues à la pandémie de Covid-19, ce festin est célébré en grande pompe dans les familles au PK5 dans le 3e arrondissement de Bangui. Dalotin Diko a visité quelques familles. Voici son reportage.
Assalamu alaikum. PK5, nous sommes au quartier sénégalais. C'est une grande réjouissance pour les musulmans et même les non-musulmans, hommes, femmes et enfants, tous sont en fête. Dans cette famille, Mariam Salé, mère au foyer, s'active à servir le repas à l'heure. Et comme à l'accoutumée, le menu, c'est la viande de mouton.
La prière a été bien passée. On était à la mosquée pour prier toute la famille. Et maintenant, nous sommes de retour à la maison pour préparer le repas pour les enfants et pour les invités aussi. Je suis en train de préparer le mouton. Après avoir préparé le repas, nous allons sortir pour aller visiter les parents.
Adraman Issa Alghesh, père de cette famille de retour de la mosquée, se dit très satisfait de cette célébration.
C'est une fête où on célèbre en famille. Donc, toutes les familles de gauche à droite passent pour rendre visite à leurs parents, se partager des repas et naturellement, on doit égorger aussi un mouton. Et Dieu a dit, le prophète Rasoul a dit qu'une fois égorgé un mouton, il faudrait être divisé en trois parties. Une partie, tu conserves pour ta maison et une partie, tu partages ça aux proches voisins de ta maison et une partie, tu peux aussi partager aux parents, amis et connaissances. Donc, ce sont les rites musulmans que nous observons depuis fort longtemps.
Le centre commercial de PK5 est resté fermé à l'occasion de cette fête d'Aïd el-Kébir. Le Tabaski est connu comme la fête de sacrifice de soumission de Abraham lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, son fils unique. Aïd el-Kébir est déclaré férié en République centrafricaine.
Inès, selon Imam Omar Kobin Layama, président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique, la célébration de Tabaski cette année est placée sous le signe de la repentance.
Au micro de Constantin Josias Ngoutendi, il appelle aussi à la prise de conscience de chaque musulman face à la pandémie de Covid-19.
Cette année, si nous plaçons cette fête sous le signe de la repentance, car le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, nous disait « Tous les fils d'Adam sont pécheurs, mais la meilleure personne parmi eux est celle qui se répand. Revenons tous vers Dieu pour qu'il nous rachète et qu'il nous ouvre la porte de sa grâce. Nous avons ardemment besoin de cette grâce pour nous permettre de consolider la paix, la cohésion, la tolérance mutuelle dans notre pays. » S'unir également pour mieux lutter contre la pandémie du Covid-19 en respectant les mesures barrières. Se mettre résolument au travail pour éradiquer le sous-développement dans notre pays.
C'était Imam Omar Kobin Layama, président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique.
Poursuivons ce journal avec ses réactions après le renouvellement de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine.
Même si le Conseil de sécurité de l'ONU a accordé quelques allègements à cette sanction, c'est toujours un choc pour beaucoup de Centrafricains. Tous espéraient une levée totale de cette sanction pour permettre le réarmement et le déploiement des forces armées centrafricaines. À Bangui, Reine Fabienne Doutiga a recueilli quelques avis.
Vraiment, on est très déçus, très désolés par rapport à l'adhésion de Nations Unies, les grandes puissances partagent l'Afrique selon leur gré, donc c'est à peu près ce que j'ai à dire.
C'est parce que la population attendait, au vu de ce qui se passe dans l'arrière-pays, si je ne suis pas exagéré dans mes propos, trois quarts de notre territoire est occupé par les forces illégales qui ne cessent de se réarmer à chaque moment au vu et au su de la communauté internationale. Et c'est vraiment embarrassant d'écouter que le Conseil des Nations Unies a prolongé l'embargo pour un an. Et je sais qu'arrivé l'année prochaine, les Nations Unies vont trouver encore des prétextes pour prolonger, mais on est fatigué.
Les gens des Nations Unies sont venus ici pour bourrer leurs poches. Ils ne sont pas venus pour gérer nos problèmes. Donc notre problème, c'est à nous, les Centrafricains, de gérer nos problèmes à nous. Vous voyez un peu, si je sors un peu du cadre, il suffit de voir le taux de participation des Centrafricains. Pour les élections de 2020-2021, il était trop faible. Ça veut dire que la population centrafricaine, on en marre.
Nos politiciens, c'est eux. On a fait entière confiance à eux. Qu'il est temps qu'ils nous fassent preuve, qu'ils sont capables maintenant de nous défendre.
C'était mardi dernier que le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour un an l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine. L'Autorité nationale des élections rassure sur le paiement des pertes, des démembrements et agents recenseurs sur le terrain. Selon son rapporteur général, l'opération de paiement commence aujourd'hui à Bangui. Entre-temps, ceux de Lombelapoko ont déjà perçu et d'autres missions sont également en route pour aller payer ceux qui sont dans les autres préfectures. Réaction faite hier au cours d'un point de presse. Julius Rufengwa de Baba est au micro de Eda Lotintiko.
Depuis quelques jours, il y a beaucoup de mouvements d'humeur. Nos démembrements, les agents tablettes eux-mêmes, les agents recenseurs, les agents Covid. Et donc, il y a des mouvements d'humeur par rapport à la question de paiement. Le Premier ministre, ayant été saisi de la question, a convoqué une réunion d'urgence aujourd'hui. Nous avons fait le tour de la question. Et suite à cela, nous avons pensé qu'il faut communiquer, informer l'opinion sur les dispositions qui ont été prises pour régler ce problème. En réalité, ce n'était pas un problème. Parce que le projet PAPEC, qui appuie l'ANE avec les ressources mises à notre disposition par les partenaires, avait déjà budgétisé ces paiements-là. Ça a pris un peu de retard parce que c'était une question de planification, mais on a fini Lombelapoko, il y a déjà des missions qui sont parties pour l'Obaï, d'autres pour la Kémo, et ainsi de suite. Demain, d'autres missions partiront pour les autres préfectures de notre pays. Et la MINUSCA vient aussi de nous informer qu'il a marqué son accord pour faire les transports de fonds par avion pour les localités éloignées, en vue d'aller payer nos compatriotes qui travaillent sur l'opération d'enregistrement des électeurs.
Lutte contre le Covid-19, une mission multisectorielle pilotée par le ministère de la Santé en visite d'exploration a eu lieu jeudi à Paoua. Objectif, recenser les besoins sanitaires et humanitaires de la ville afin de proposer des solutions. Rolf Steve Domialeu était à Paoua. Reportage.
Cette mission a permis à la délégation de palper la réalité du terrain afin de renforcer les dispositifs de prise en charge des malades de COVID-19 dans la ville. Après Bangui, Paoua est la deuxième ville la plus touchée par la pandémie de COVID-19 avec 74 cas recensés. La première vague des 200 000 masques prévus ont été remis à l'hôpital de district de Paoua ainsi que des équipements de prise en charge. Selon Dr Pierre Somsé, ministre de la Santé, il est impératif de renforcer les équipements de cet hôpital.
Certains besoins ont pu trouver une solution qui seront mises en place immédiatement, notamment le renforcement de capacités en laboratoire qui permet de faire des examens de dépistage pour la tuberculose, le VIH, l'Ebola et la COVID-19 avec le même niveau de fiabilité que l'Institut Pasteur Laboratoire National.
L'hôpital de district sanitaire de Paoua dispose de 5 services en manque de personnel qualifié. Face à la progression rapide de COVID-19 dans la ville, un bâtiment spécialisé est presque en fin de construction pour accueillir les patients. Docteur Marc Rigombinga, médecin-chef de l'hôpital de district sanitaire de Paoua.
On a eu à faire des plaidoyers à l'endroit des partenaires qui œuvrent dans le domaine de la santé et qui rapidement ont réagi en mettant à notre disposition certains kits de protection et aussi certains matériels dans le cadre de la réhabilitation et de construction d'un bâtiment d'isolement.
La position géographique de la ville de Paoua et la densité de sa population expliquent aujourd'hui le fort taux de contamination au COVID-19. Une sensibilisation de masse sera faite dans les prochains jours pour alerter la population sur les dangers que représente cette pandémie. Timoléon Baïkoa, député de Paoua 2.
Le rôle d'un député que je suis sera de sensibiliser la population au niveau des mesures barrières. Et donc on va utiliser notre ingéniosité, le tam-tam, les sifflets pour expliquer comment il faut prendre des dispositions pour que les gens ne soient pas malades du Covid-19.
Vu l'urgence des besoins, le directeur de l'Institut Pasteur annonce la création d'un centre de prélèvement à l'hôpital de district sanitaire de Paoua. 3. Ce laboratoire permettra aux techniciens de faire les tests de dépistage sur place au lieu de les envoyer à Bangui. Rolf Steve Domial de retour de Pawa, Radio Ndekeluka.
Merci à vous, Rolf.
Inès, au Covid-19 toujours, le ministère de la Santé a annoncé hier qu'il n'y a pas eu de nouvelles contaminations.
Le pays compte à ce jour 4607 malades, dont 1574 guéris et 59 décès. Jusqu'à hier, le coronavirus a touché plus de 17 315 personnes dans le monde. Il a causé plus de 675 000 morts. Sur le continent africain, plus de 872 000 personnes souffrent de cette maladie et près de 18 500 autres décédés.
À Bosangwa, l'Agence nationale d'eau et assainissement, ANEA, s'implique dans la lutte contre le coronavirus en milieu scolaire.
Elle a remis ce mardi des kits de lavage des mains aux écoles primaires de la ville. Ceci pour permettre aux élèves de reprendre les cours tout en prévenant le Covid-19. Le point avec Raphaël Nganaré.
Ces kits sont composés de seaux à robinet et des palettes de savon. Boniface Léoutou, animateur et chef d'agence intérimaire de l'ANEA.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, nous avons jugé utile de distribuer ces kits afin que les enfants puissent s'en servir pour éviter le taux de la contamination dans le milieu scolaire.
15 écoles direction du centre et de la périphérie ont bénéficié chacune d'un seau et de 10 morceaux de savon. Il s'agit entre autres de l'école Pontouam à l'entrée sud de la ville, l'école centre préfectorale Liberté, la vallée Boro et Tamkouro à 5 km à la sortie nord. Un geste salué par les directeurs d'école qui ont monté au créneau pour demander au ministre de l'enseignement primaire et secondaire de réaliser ses promesses car depuis le 15 juillet, les cours ont repris dans toute l'inspection académique du nord, ont-ils souligné. Chérubin Gaiporo Yangui, l'un des directeurs.
Le gouvernement nous a demandé de répondre les cours effectivement avec nos chefs hiérarchiques. Nous avons déjà démarré mais par rapport au kit cachené, aucun geste n'est fait. Donc, ils pensent à nous donner ces kits et même de contrôler au moins la santé des enseignants et les élèves.
Fidel Balendi, inspecteur d'Académie du Nord, appelle à la pérennisation de ce don et interpelle les chefs d'établissement et l'association des parents d'élèves à en faire bon usage au profit des élèves qui sont les ayants droit.
Nous voudrions que d'ici l'année prochaine que ces kits existent toujours pour nous permettre de lutter contre le Covid-19.
La distribution de ces kits de lavage de mains par l'ANEA a bénéficié de l'appui financier de l'UNICEF. Raphaël Nganaré, Bosangwa, Radio Ndekeluka.
Bienvenue Bello pour la présentation de la page sport. Bienvenue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
En sport, le président de la Fédération centrafricaine de basketball sort de son silence et parle des défis de cette organisation du basketball centrafricain.
Après l'arrêt dû à la pandémie de Covid-19, Isidore Mbola dévoile les activités à réaliser pour essayer de rehausser le niveau du basketball centrafricain. Pour lui, il faut mettre un accent dans la formation des jeunes, le basket dans les établissements scolaires et la formation des acteurs de cette discipline. Isidore Mbola.
Le basketball centrafricain a beaucoup de défis. Le basketball centrafricain est en train de se renouveler. Et depuis les événements du coronavirus, nous pensons maintenant qu'il est temps de commencer à préparer les jeunes et commencer à leur inculper les fondamentaux du basketball pour que d'ici 5 ou 10 ans, nous ayons des basketteurs qui sont à même d'affronter les autres joueurs du continent. Nous devons aussi revoir le sport scolaire. Nous devons travailler avec les professeurs d'éducation physique pour essayer de vulgariser le basketball. Ainsi, avec le nombre de joueurs qui s'intéressent au basketball, nous pensons que petit à petit, nous pouvons redevenir ce que nous étions, c'est-à-dire un pays de basketball.
Par ailleurs, le président de la Fédération centrafricaine de basketball s'est aussi prononcé sur le manque des infrastructures. Pour Isidore Mbola, il faut construire plusieurs terrains pour la pratique de ces disciplines dans le pays.
Nous manquons totalement d'infrastructures dans ce pays. La seule infrastructure que nous avons en ce moment qui peut accueillir quelques compétitions, c'est l'Omnisport. L'Omnisport est dans un état difficile. Le centre de basket Ngoko aussi est dans un état difficile. Il va falloir trouver des moyens financiers pour réhabiliter le centre Ngoko. Et nous pensons aussi au terrain périphérique. Quand un enfant revient de l'école, etc., s'il veut aller s'amuser un peu, il faut qu'il y ait un terrain à proximité pour pouvoir aller jouer avec les amis, etc. C'est comme ça que nous pouvons faire.
Isidore Mbola, interrogé par vous. Bienvenue, Bello. Changeant de discipline, football éliminatoire Cannes 2021, le Maroc, adversaire de la RCA, se prépare déjà.
Dans un communiqué, la Fédération Royale Marocaine de Football a informé l'opinion qu'elle a engagé deux techniciens français dans le staff des entraîneurs. Il s'agit de Stéphane Guilly au poste d'entraîneur adjoint et Lauren Weber, entraîneur des gardiens de but. Ces techniciens ont été recrutés sur proposition du sélectionneur national. Pour le moment, les tractations se poursuivent en Centrafrique pour le recrutement officiel de François Zaoui comme sélectionneur national.
À l'international, clôture demain samedi des dossiers de candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.
Selon nos informations, Didier Drogba va déposer sa candidature ce samedi à 8h au siège de la dite fédération à Trècheville, à Abidjan. Dans cette course pour diriger le football ivoirien, Idrissi Diallo, Sori Diabaté et autres adversaires aussi vont déposer leur candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Des élections qui dépassent les frontières à cause de la participation de l'un des meilleurs footballeurs africains de tous les temps, l'ancien capitaine des éléphants, Didier Drogba.
Et voilà, c'est la fin de ce journal en français sur Radio Ndeke Loka.